Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall.
Et nous voici, chers amis qui vous écoutez sur l'antenne de Radio Présence, nous sommes arrivés dans notre long commentaire des deux livres de Samuel. Un moment un peu crucial et très douloureux pour David, c'est la mort de son fils Absalom qui était devenu son opposant et qui était prêt à le supprimer. Et cet Absalom, dans la vallée du Jourdain, se prend la tête dans un grand chêne et se trouve là entre ciel et terre. Et il est remarqué par un des braves de David et donc Joab lui-même vient le planter son javelot dans son cœur. Et il s'agit de dire ça à David, qui avait dit par égard pour moi, épargner Absalom, décidément. Et donc, voilà comment ça va se faire. Mais le récit est d'une extrême délicatesse et d'une grande finesse, et tout de beauté d'âme, vraiment. Le cœur de David attend à la fois la victoire et le retour d'Absalom, comme la mère de Sisera guettait le retour de son fils, tué par Yaël, la femme de Héber le Kédite, dans le livre des Juges, comme nous en avons parlé il y a un bon moment déjà. On connaît aussi la formule célèbre « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» Appel trois fois répété de la malheureuse épouse trop curieuse de barbe bleue. À vrai dire, le conte, cette histoire donc, a repris un épisode profondément inscrit dans le folklore français, celui de la délivrance d'Orléans, qui allait être pillée par Attila, roi des Huns, à la fin de mai 451. À la demande de Saint-Aignan, évêque d'Orléans, Aetius, qui dirigeait l'Empire romain pendant la minorité de Valentinien III, je vous fais grâce des détails de cet histoire compliqué de la fin de l'Empire romain, et Théodoric Ier, roi des Visigoths, vinrent à la rescousse. C'est Attila. Le siège dura 15 jours et Aignan, Saint-Aignan, l'évêque, demandait de monter sur les murs de la ville pour voir si les secours arrivaient. Ils ne virent personne. Quand la prière fut terminée et qu'ils regardèrent une troisième fois du haut des murs, ils virent au loin comme une nuée sortir de terre. À cette nouvelle, l'évêque dit « C'est le secours du Seigneur ». Et dans la légende composée après l'événement, la phrase était « Agne ». Agne, mon frère Agne, pour Aignan, ça vient de Agnus, l'agneau. Agne, mon frère Agne, ne vois-tu rien venir ? C'est un rappel un petit peu cette belle histoire et qui me revient à l'esprit quand nous commentons cet événement tragique de la mort d'Absalom. Le guetteur avait vu deux hommes courir. Aïmas arrive le premier et dit au roi « Béni soit le Seigneur ton Dieu qui a livré les hommes qui avaient levé la main contre mon Seigneur le roi. » Mais David s'enquiert aussitôt. « Et en va-t-il bien aussi pour le jeune Absalom ?» Aïmas recule et fait un mensonge. « J'ai vu un grand tumulte au moment où Joab, serviteur du roi, envoyait ton serviteur, mais je ne sais pas ce que c'était. » David lui dit « Range-toi et tiens-toi là. » Arrive le Cushite, vous savez, c'était celui qui avait été envoyé par Joab pour prévenir le roi, d'abord. Arrive le Cushite, un Éthiopien noir, qui dit « Que mon Seigneur le roi apprenne la bonne nouvelle. Le Seigneur t'a rendu justice aujourd'hui en te délivrant de tous ceux qui s'étaient dressés contre toi. » David coupe court et demande à nouveau « En va-t-il bien pour le jeune Absalom ?» Un pressentiment l'a sans doute gagné. Il ne pense plus aux rebelles, mais s'inquiète de son jeune fils. Deux fois, David souligne sa jeunesse. En va-t-il bien pour le jeune Absalom ? Le Cushite doit répondre, et il le fait indirectement, honorant aussi la jeunesse d'Absalom, qu'ils aient le sort de ce jeune homme, les ennemis de Monseigneur le roi, et tous ceux qui se sont dressés contre toi pour le mal. David est assez fin pour avoir tout compris. Le chagrin d'avoir perdu son fils domine en lui sur l'assurance de sa victoire sur des mutins. Et ici encore se révèle le cœur à la fois grand et sensible du roi. Alors le roi frémit. Il monta dans la chambre supérieure au-dessus de la porte et se mit à pleurer. Il disait en sanglotant, « mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place ? Absalom, mon fils, mon fils. » Le texte exprime avec vérité et splendeur le chagrin du père qui chante les litanies funèbres du révolté en retournant dans tous les sens les trois mots « mon fils Absalom » comme on fait dans une grande douleur. « Mon fils Absalom, Absalom mon fils, mon fils, mon fils. » Et il va jusqu'à souhaiter être mort à sa place sans pourtant ignorer que ce fils voulait tuer son père pour prendre sa place. Ces sentiments sonnent justes et retentissent jusque dans nos cœurs. Il jette aussi à l'avance une lumière sur le cœur du père au moment de la mort de son fils sur le calvaire. Le fait qu'il nous l'ait livré, le Dieu, le Père, qui a livré son fils, nous permet de sonder le grand amour dont il nous a aimés, car quel père ne s'offre pas à la mort pour l'épargner à son fils. Et en face de ce chagrin, tout le monde se retire en silence par respect pour le roi, ce que dit le texte avec une infinie délicatesse. La victoire, ce jour-là, se changea en deuil pour toute l'armée, car l'armée apprit ce jour-là que le roi était dans l'affliction à cause de son fils. Et ce jour-là, l'armée rentra furtivement dans la ville, comme se dérobe une armée qui s'est couverte de honte en fuyant durant la bataille. Remarquable. En deux phrases, est reprise trois fois la formule « ce jour-là », qui marque le caractère paradoxal des événements survenus. Et le texte reprend de façon poignante. Le roi s'était voilé le visage et poussait de grands cris « Mon fils Absalom, Absalom mon fils, mon fils ».